Radio Éthique a interviewé Sylvie Ampikian, l'auteure de l'ouvrage « Créez vos boissons santé » paru aux éditions Terre Vivante. Elle nous explique l'importance d'un retour au fait maison dans un contexte d'une alimentation moderne de plus en plus carencée.
Cette alimentation moderne entraîne des insuffisances qui n'auront pas des répercussions forcément évidentes sur la santé, mais qui vont contribuer à peut-être une moins bonne résistance aux infections, une moins bonne qualité de la peau, une mauvaise résistance au stress notamment.
Dans votre ouvrage, vous faites un tour de toutes les boissons santé pour faire le plein donc de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, sachant que la première boisson santé, c'est l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Comment est-ce qu'on peut choisir une bonne eau?
Nous avons la chance de vivre dans un pays où on peut disposer d'eau de bonne qualité, aussi bien en ce qui concerne l'eau courante que les eaux en bouteille. Une denrée de luxe. L'eau elle-même est malheureusement devenue presque une denrée de luxe. Puisqu'on a la possibilité de choisir, profitons-en. La première des eaux qui nous soit disponible, c'est l'eau du robinet. Globalement, en France, elle est quand même d'une qualité tout à fait correcte, grâce bien sûr au traitement en amont et puis grâce aux contrôles qui sont effectués. Bien sûr, il y a toujours une petite tolérance et certains diront qu'il y a des traces de métaux lourds, de nitrates, et également parfois des micro-organismes qui sont passés, on va dire, au travers des mailles du filet. On n'est pas tous sur le même pied d'égalité, mais les personnes qui habitent en Auvergne, qui est sans doute la région qui concentre le plus d'eau thermale, d'eau de source commercialisée, ont la chance d'avoir au robinet une eau de bonne qualité. Par contre, en bord de mer, en général, les sources sont de moins bonne qualité. Il y a souvent une surpopulation de ces régions qui fait que la qualité est moins bonne. Donc c'est un petit peu hétérogène. Si on a des doutes, on peut appeler la mairie de sa commune.
Et donc, quand on n'a pas la chance d'avoir une très bonne eau, on s'oriente vers des eaux en bouteille.
On n'a pas
toujours tendance à décrypter les étiquettes derrière ces bouteilles. Qu'est-ce qu'il faudrait regarder en priorité, en fait? Parce qu'il y a des eaux plus salées que d'autres, d'autres qui ont plus d'apport.
Tout à fait. Alors déjà, moi, je dirais qu'au quotidien, il vaut mieux choisir des eaux de source que des eaux minérales, parce que les eaux de source sont peu minéralisées et elles ont une composition en minéraux qui est très équilibrée. Elles n'ont pas de contre-indications dans des populations particulières. Elles contribuent quand même à apporter du magnésium, du sodium, des chlorures, du potassium en quantité bien équilibrée. Les eaux minérales, il faudrait surtout éviter de consommer toujours la même.
D'accord, il faut varier.
Là il faut absolument varier. On risque vraiment là de créer des déséquilibres, hein, surtout si on est un gros consommateur d'eau. Je pense notamment aux personnes âgées qu'on incite à boire beaucoup d'eau. Si elles prennent toujours la même eau minérale, elles peuvent créer vraiment de gros déséquilibres. Les eaux minérales les plus déséquilibrées, on va dire, sont les eaux qui sont riches en sodium.
Faut regarder ça.
C'est là qu'on va avoir les plus gros écarts, c'est surtout sur le sodium. On peut avoir des teneurs en moyenne autour de 100 mg par litre, et pour les eaux riches en sodium, on va être à 2000 voire 4000. On peut avoir jusqu'à 40 fois plus. Hein. C'est surtout le sodium qu'il faut regarder, et notamment si on a des problèmes qui sont assez répandus d'hypertension et de rétention d'eau. Il faut éviter quand même globalement les eaux minérales quand on est insuffisant rénal. Ce sont les deux grosses contre-indications, on va dire. Du point de vue écologique, le mieux, c'est de prendre l'eau de source de la région et préférer les conditionnements en fontaine. Ça limite quand même les emballages.
Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'eau. Passons aux fruits et légumes, parce que vos boissons santé proposent de faire le plein, vu que l'objectif est fixé à 10 portions de fruits et légumes par jour.
Oui.
Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur le pourquoi de cet objectif? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger autant de portions de fruits et légumes?
En général, le chiffre qui circule, c'est 5 portions. 5 portions, c'est le minimum. C'est le minimum, et 10 étant l'idéal. Les fruits et légumes sont les meilleures sources de vitamines variées, oligo-éléments et facteurs antioxydants. Également les fibres végétales qui ont non seulement un rôle de transit, hein, qui facilitent le transit intestinal, mais qui également, on l'a vu, favorisent une bonne flore intestinale. Et la flore intestinale ne contribue pas qu'à la santé des intestins, mais à la santé de l'organisme dans son ensemble, et notamment, et ça c'est important par les temps qui courent, à la résistance contre les infections bactériennes ou virales. Ces fibres ont un rôle sur la flore et elles protègent contre certains cancers, enfin notamment le cancer du côlon. Donc il y a à la fois ce rôle nutritif des fruits et légumes et ce rôle préventif.
Et quitte à en choisir autant, en tout cas 10 portions dans une journée, c'est très important dans l'alimentation, autant les choisir de qualité, local et bio, ou alors bio et équitable.
Bien entendu, on va toujours privilégier les fruits locaux. Maintenant, on ne peut plus se passer de banane, hein. On ne peut plus se passer d'orange ni d'ananas, ça fait partie de notre culture, on va dire. Donc, il existe certaines filières commerce équitable, notamment pour les bananes. Voilà, effectivement, choisir de préférence des fruits et légumes bio et de préférence de production locale, hein, pour l'impact sur la planète. Et puis, également pour respecter le calendrier des saisons, c'est important. Parce qu'on aura des fruits qui auront poussé dans les meilleures conditions. Fruits de saison, de bonne qualité. Alors, quand je dis bio, ça peut aussi être le producteur local que vous connaissez, qui n'est pas forcément estampillé bio, mais qui
mais donc vous êtes sûr qu'il ne traite
pas. Raisonnée, voilà. Voilà. C'est important parce que dans les produits conventionnels, les traces de pesticides, c'est vraiment un réel problème. Alors, il y a déjà le dépassement des normes. Quand les autorités de santé ou d'hygiène font des prélèvements, ils s'aperçoivent qu'il y a autour de 10% des fruits et légumes disponibles sur le marché qui dépassent les normes autorisées. Et même quand on est en deçà de ces normes, les pesticides subsistent à l'état de traces à peine mesurables, mais s'accumulent dans l'organisme.
Donc vous proposez de faire des jus, des smoothies, vous parlez de toutes sortes de boissons. Il n'y a pas photo par rapport à celle du commerce, rien ne vaut le fait maison.
Moi, je pense que ça doit être pas loin d'être le secteur qui représente les pires excès de produits, je dirais, alors à l'opposé de la santé. C'est vraiment dans les boissons qu'on trouve les pires produits industriels, hein, pour ne citer aucune grande marque américaine. Voilà, alors ça, ce sont typiquement des aliments qui constituent des calories vides, c'est-à-dire un gros apport calorique sous forme de sucre et un apport en nutriments qui frise le zéro. Alors que, effectivement, si on fabrique maison, on va avoir des ingrédients de choix, de haute qualité nutritionnelle, et puis on va également limiter tout ce problème des emballages. Et gros avantage aussi, c'est qu'on peut maîtriser la composition de ces produits, notamment la composition, enfin la teneur en sucre.
Donc justement, à propos du sucre, vous établissez notamment dans l'ouvrage un tableau par rapport aux différents indices glycémiques apportés par les différentes sources de sucre. Donc en fait, le sucre blanc, c'est pas forcément l'idéal.
Ah non, c'est absolument pas l'idéal. C'est, comme je vous disais, pour les boissons industrielles, ce sont des calories vides. On a les sucres bruns qui sont déjà un petit peu mieux, ou avec des édulcorants, mais je dis bien des édulcorants naturels. Il faut éviter l'aspartame. Il y a une charge contre l'aspartame de plus en plus inquiétante, hein, sur son application dans un certain nombre de maladies, alors qu'il est quand même très utilisé. Donc voilà, ça c'est vraiment le produit à bannir. Mais il y a des édulcorants naturels. Alors au niveau des produits sucrants à proprement parler, il y a le miel, bien sûr. Le miel qui apporte en plus des qualités thérapeutiques, hein, aux boissons. Vous avez le sirop d'agave.
Oui, justement, pour les diabétiques, c'est recommandé.
Voilà, disons que l'indice glycémique est plus favorable. Mais là, ce sont des produits qui sont issus de la production du sucre, mais à un stade très en amont, où on retrouve encore pas mal de nutriments.
Donc après avoir fait le tour de tous les ingrédients qui composent des boissons santé, vous proposez dans la deuxième partie du livre bon nombre de recettes, donc qu'on laissera découvrir à nos auditeurs. Au final, si on veut conclure, donc rien ne vaut le fait maison, c'est rapide, c'est économique et c'est écologique.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment économique et puis c'est créatif aussi, je dirais, parce que quand on commence à faire ces cocktails de fruits et légumes, fruits et les végétaux, ça ouvre l'imagination. Hein. Moi, je donne des recettes, mais les combinaisons peuvent se conjuguer par milliers. On peut utiliser ces smoothies comme boisson, on peut les utiliser dans des verrines pour l'apéritif. On peut également, je l'explique dans le livre, en ajoutant de l'agar-agar, les transformer en fait en terrine, en gelée, etc. Donc c'est extrêmement créatif et donc on va à la fois faire du bien à sa santé et puis faire plaisir à ses invités. Mais il ne faut pas oublier aussi les boissons chaudes, hein. Les tisanes composées, les tisanes de mélanger plantes et fruits. Enfin, c'est vraiment une façon qui est à la fois agréable, facile et finalement économique d'atteindre l'objectif des 10 portions de fruits et légumes par jour.